sans ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée, quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans Midi et des Poussières. Nous sommes le jeudi 29 janvier, on va passer un petit moment ensemble en direct via les ondes fréquence 107 de la bande FM. Tout à l'heure, Victor me rejoindra en studio pour son Midi moins 10 version radio. Et avant ça, je vous propose d'évoquer un sujet dont on parle de plus en plus, mais peut-être pas encore assez. C'est le sujet des aidants. En France, ils sont 8 à 11 millions à être reconnus comme proches aidants, c'est-à-dire comme accompagnants un parent, un enfant ou un conjoint en perte d'autonomie à lui venir en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour l'aider dans tous les aspects de la vie quotidienne. C'est un rôle essentiel mais souvent lourd de conséquences pour la personne aidante. Fatigue, charge mentale et émotionnelle, beaucoup de stress, ça prend beaucoup de place dans la vie de la personne au détriment parfois de ses activités personnelles et professionnelles. Et puis c'est pas toujours facile à assumer et d'en parler, de partager ce qui se passe dans la sphère intime, de demander de l'aide quand c'est trop lourd. Alors le rôle des aidants, il est de plus en plus reconnu. La notion de proche aidant, elle a été définie dans la loi en 2015. Plus récemment, l'été dernier, depuis l'été dernier, il est possible de bénéficier de prestations de salariés pour soulager et offrir un répit aux proches aidants. Et des associations existent pour les soutenir et les accompagner, comme l'Association française des aidants, fondée en 2003, qui a aussi, elle, pour objectif de faire émerger la dimension sociétale de la thématique des aidants, au-delà de la dimension privée. Ils sont en effet des piliers pour le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie et sans eux, c'est tout un système médico-social qui risquerait de s'effondrer. Alors en Lozère, une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants, l'espace des aidants, a ouvert ses portes il y a 3 ans. Leurs bureaux sont situés à Mende, mais la structure organise des activités dans tout le département et anime notamment des pauses café. C'est des moments conviviaux de rencontres entre aidants pour permettre l'échange, le partage d'expériences, le soutien et la découverte de méthodes ou d'outils qui peuvent faciliter le quotidien de l'aidant et de la personne accompagnée. Et mardi dernier, mardi 27 janvier, une de ces pauses café a eu lieu à Florac. Elle était animée par Nawel Koussa, qui est assistante sociale à l'espace des aidants. Et je suis allée la rencontrer à la fin de la réunion. Je vous propose de l'écouter nous présenter plus en détail le fonctionnement de l'espace des aidants et les activités qu'ils organisent.
Donc l'espace des aidants, c'est une association qui est portée par la maison de retraite L'Adoration, à Mende, et financée par l'ARS. Donc en fait, c'est une plateforme d'accompagnement et de répit destinée aux aidants, qui accompagne donc un proche âgé de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie. Le but de l'espace des aidants, c'est de faire connaître, de leur faire reconnaître le rôle d'aidant, qui est souvent un peu mis de côté parce qu'ils sont dans leur routine et ils se remettent très peu en question sur leur quotidien, parce que pour eux, c'est normal en fait de s'occuper d'un proche dépendant. C'est vrai que c'est un sujet très récent. C'est très récent. Auparavant, on entendait très peu parler d'aidants. Et depuis quelques années maintenant, ils sont mis à l'honneur. Il y a même une journée nationale qui met à l'honneur donc l'aidant. C'est le 6 octobre. Et on profite de cette journée aussi pour organiser le forum des aidants. Le forum, ça permet d'échanger entre partenaires, donc en lien avec la perte d'autonomie et le vieillissement. Et en fait, l'objectif aussi, c'est de permettre aux aidants de se rendre à ces forums pour déjà nous faire connaître et puis de se rapprocher des structures qui pourraient répondre à leurs besoins.
Et en parallèle de ce forum, toute l'année, sur le département de la Lozère, vous proposez différentes activités pour justement aussi permettre des temps d'échange et de rencontres entre aidants.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, nos missions, en premier lieu, bon, c'est déjà l'accueil inconditionnel de chaque personne qui se considère comme aidant, encore une fois, qui accompagne un proche âgé de plus de 60 ans. Donc, les informer sur leurs droits, les soutenir et puis aussi les orienter vers des services compétents selon leurs besoins. Et puis, effectivement, animer des actions collectives comme les pauses café qui sont censées voilà, créer du lien déjà, les rencontrer donc, autour d'un espace assez convivial. Il y a un espace aussi où l'écoute est très importante. Après, ce qui est difficile aussi, ce que je peux visualiser moi, c'est qu'ils se retrouvent qu'autour de l'espace des aidants, c'est-à-dire que la plupart ne se voient pas en dehors de l'espace des aidants. Et ça, c'est un petit peu dommage aussi.
Et vous évoquiez tout à l'heure que voilà, vous pouvez orienter les aidants sur les services auxquels ils ont droit. Et qu'est-ce que c'est, par exemple ?
Donc, les services... bon, déjà, nous, on a un dispositif qui se nomme le temps libéré, qui permet à l'aidant de bénéficier de 36 heures d'aide à domicile gratuite par an. Et ce dispositif, en fait, permet, comme son nom l'indique, de libérer du temps pour l'aidant, d'honorer ses rendez-vous médicaux, administratifs, pendant qu'un auxiliaire de vie vient à son domicile et s'occupe de la personne aidée. Ou simplement pour prendre du temps pour lui, et puis voilà, de sortir un peu de sa routine d'aidant. En termes de droit, il peut y avoir aussi des questions en lien avec le congé du proche aidant. Voilà, donc les aidants qui sont salariés, qui sont encore en activité et qui veulent un petit peu mettre de côté leur activité professionnelle ou diminuer leur temps de travail. Donc ils se rapprochent de nous et on essaie de les éclairer sur ce droit-là. Ensuite, tout ce qui est en lien aussi avec l'APA, donc l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui concerne la personne aidée. Souvent, les personnes sont un peu dans la méconnaissance de tous ces dispositifs-là, donc on est là pour les éclairer. Et c'est ce droit-là, c'est l'APA, donc ça permet d'ouvrir droit à des aides à domicile selon la perte d'autonomie de la personne aidée.
Et à l'occasion des pauses café que vous organisez, vous invitez parfois des partenaires pour venir approfondir un sujet ou un autre, comme c'était le cas aujourd'hui à Florac.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on se base sur les besoins des aidants. Donc la dernière fois, on leur a posé des questions en lien avec leurs besoins, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient approfondir et c'était voilà, des besoins en termes d'aide technique. Et donc, on a pensé à notre partenaire, l'ESA, pour nous éclairer davantage sur ce sujet-là.
Et donc, aujourd'hui, c'est vous, Elsie Rousset, qui êtes venue à cette pause café. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors je suis Elsie Rousset, ergothérapeute à l'équipe de soutien et d'accompagnement Demande. Nous sommes 5 professionnels qui intervenons à l'ESA. Donc il y a une ergothérapeute, c'est moi, et ensuite 4 assistantes de soins en gérontologie qui ont donc fait une formation spécifique en gérontologie et toutes les pathologies qui vont avec la perte d'autonomie et l'entrée dans le vieillissement. Donc on se déplace sur une bonne partie du secteur de la Lozère, c'est un secteur qui est défini et notre structure est financée par l'ARS. On se déplace à domicile sur prescription médicale chez des personnes qui présentent des troubles cognitifs, alors qu'ils soient diagnostiqués ou non. On parle souvent de maladie d'Alzheimer, souvent de maladie de Parkinson ou apparentée, mais en fait, nous, on peut intervenir à partir du moment où il y a des troubles cognitifs, des pertes de mémoire et un impact sur l'autonomie au quotidien. Comme on intervient uniquement à domicile, on rentre dans la sphère privée, dans la sphère intime des gens. Et effectivement, les aidants, ils sont là, ils font partie intégrante du paysage et ils sont souvent le pilier du maintien à domicile. Et prendre en compte leurs besoins, leurs envies, c'est primordial dans notre accompagnement aussi. Nous sommes là pour les personnes qui ont une pathologie ou un trouble, mais aussi pour leurs aidants. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un aidant. Et certaines ont des aidants qui sont plus ou moins en capacité d'aider suffisamment, correctement. Chacun fait comme il peut. On sait que la maladie engendre beaucoup de déséquilibre au niveau des structures familiales ou des proches qui aident. Et voilà, il y en a qui ont de la chance d'avoir des aidants, d'autres non.
Alors vous êtes ergothérapeute, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cette discipline et comment est-ce qu'elle s'articule avec voilà, la perte d'autonomie ?
Mon rôle en tant qu'ergo, c'est d'adapter le quotidien et de maintenir l'autonomie au maximum, quel que soit le problème. Donc en fonction de la difficulté, je conseille, j'adapte le logement et effectivement je conseille aussi des aides techniques qui permettent de faciliter le quotidien. Moi, mon but premier, c'est le maintien à domicile dans de bonnes conditions.
Cet après-midi à Florac, vous étiez venu avec tout un petit panel de différents objets pour les présenter aux participants. Est-ce que vous pourriez nous en décrire quelques-uns ?
Effectivement, je suis venue avec plusieurs aides techniques parce qu'il en existe beaucoup. Alors, j'en ai amené un petit peu. L'idée, c'était de leur présenter un peu par problématique, par exemple, toutes les aides techniques qui peuvent les aider à prévenir le risque de chute, parce qu'on sait que c'est le problème principal quand même chez les personnes de plus de 60 ans, c'est la chute. Donc il existe plein de systèmes différents pour les éviter. Il y a des systèmes très simples. Déjà, il faut désencombrer son logement, mais surtout, il faut penser à retirer tout ce qui peut être source de chute au sol, donc par exemple les tapis, etc. C'est important de les enlever. Si vous ne voulez pas les enlever, vous pouvez scotcher les angles au sol, ce qui permet de ne pas accrocher le pied. Il existe aussi des éclairages à détection de mouvement qu'on met en dessous du lit, par exemple. Et quand vous posez votre pied par terre, ça s'allume parce qu'on sait que le manque d'éclairage, c'est une des sources principales des chutes la nuit chez la personne âgée. Il existe aussi des systèmes de barres et de poignées pour aider à sortir de la voiture parce qu'on sait que les transferts pour entrer et sortir d'un véhicule, c'est souvent difficile. Pour tout ce qui est salle de bain, des planches de bain qui permettent de s'asseoir à hauteur dans la baignoire et d'éviter aussi les chutes parce que dans les endroits humides comme les salles de bain, c'est souvent là que ça pose problème. Il existe aussi pour les personnes qui ont des troubles cognitifs et des pertes de mémoire différents objets qui peuvent faciliter grandement le quotidien, alors à la fois des personnes qui souffrent de troubles cognitifs et de leurs aidants, par exemple les horloges numériques qui permettent d'avoir un affichage constant du jour, donc par exemple vendredi matin le 27 janvier et 9h, l'heure est inscrite clairement, parce que c'est une question qui revient très fréquemment. Toute la journée, on pose la question, et quel jour on est ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Et est-ce que c'est l'heure de manger ? Effectivement, le fait d'avoir un outil comme ça, qui limite les questions qui sont récurrentes et épuisantes pour les aidants, c'est très utile. Après, il existe plein de petits outils comme les localisateurs d'objets aussi qui fonctionnent bien quand on perd ses clés, quand on perd son téléphone.
Et du coup, pour rebondir aussi sur le dispositif d'aide qu'évoquait Nawel tout à l'heure, parce que bon, c'est des objets qui ont un coût forcément. En plus, c'est des objets très techniques. Par exemple, ce détecteur de mouvement sous le lit, on peut imaginer que voilà, le coût est important. Comment est-ce qu'on peut se faire aider pour financer tout ça, pour acheter ces objets ?
Alors, déjà, le coût est surprenant parce qu'il y a des objets qui ne coûtent pas si cher que ça, finalement. Mais effectivement, c'est un budget si on doit investir. Par exemple, pour les personnes qui bénéficient d'un dossier APA, comme en a parlé Nawel tout à l'heure, il peut y avoir des aides au financement pour certaines aides techniques. Certaines mutuelles aussi aident à financer. Et puis, il y a certaines aides techniques qui sont financées par la Sécurité sociale.
Et alors vous, comment est-ce que vous avez vécu cet après-midi ? C'était la première fois que vous rencontriez les aidants qui étaient présents ?
Alors certains oui et certains non, parce qu'effectivement on est dans un petit département, donc il y a certains d'entre eux chez qui je suis déjà allée dans le cadre de mes activités à l'ESA, donc j'en connaissais certains, d'autres non, mais j'ai trouvé ça très enrichissant, et puis ils ont été très interactifs, ils ont posé beaucoup de questions, donc je pense que ça les a intéressés.
Et est-ce que vous avez le sentiment, un peu pour conclure notre discussion, que les choses vont dans le bon sens et qu'on prend de mieux en mieux en compte le rôle des aidants, ou est-ce qu'à vos yeux, il y a encore beaucoup de travail à faire et l'aide n'est pas suffisante, si vous avez un peu un diagnostic à nous donner en tant que professionnel?
Oui, je pense qu'il y a plus de visibilité des aidants aujourd'hui que ce qu'il y en avait il y a quelques années. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à exprimer qu'ils sont dans une situation où ils sont aidants, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense qu'avant, les gens ne se posaient pas la question, aidant ou pas, ils faisaient ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, ils font toujours ce qu'il y a à faire pour aider leurs proches. Mais effectivement, il y a un peu moins de réticence à s'assumer en tant qu'aidant. Et je pense que les politiques gouvernementales vont quand même toutes dans le sens de cette reconnaissance et de cette aide aux aidants et aux personnes âgées en perte d'autonomie de manière générale.
Donc les aidants assument eux-mêmes de demander de l'aide?
Oui, je pense un peu plus. Après, il y a certains qui continuent à effectivement... je ne sais pas si c'est ne pas assumer, mais en tout cas, ont du mal à venir vers les autres et à venir demander de l'aide. Je pense qu'il restera toujours des gens qu'il faudra aller chercher, parce que demander de l'aide, c'est facile pour personne.
Merci beaucoup à Nawel Koussa, ainsi qu'à ses collègues de l'Espace des aidants de Mende, Sylvie Verdusier et Julia Dabi. Et merci beaucoup à Elsie Rousset, ergothérapeute de l'Espace de soutien et d'accompagnement de Mende, pour leurs témoignages. Et pour en savoir plus sur leurs activités, n'hésitez pas à contacter l'Espace des aidants, pfr48@orange.fr, et je mettrai tous les liens sur la page de Midi et des Poussières sur le site de Radio Bartas.
Lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, al viento quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cuando
Vous êtes bien sur Radio Bartas, il est toujours midi et des poussières. On écoutait à l'instant Canción Mixteca de Raikouder, un des titres de la bande originale du film Paris, Texas de Wim Wenders, sorti en 1984.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et sans transition aucune, je voulais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé hier sur France Télévisions, en replay sur le site France TV, c'est gratuit, en accès libre. C'est un docu qui s'appelle « Il était une fois demain », réalisé par Michael Pitio. Et c'est un film qui propose un voyage imaginaire très documenté pour imaginer la France de 2100, une France qui aurait cessé de lutter contre le changement climatique et la fin des énergies fossiles, et qui aurait au contraire fait le choix de l'adaptation. Alors il faut passer outre la musique de fond un peu épico-romantique et beaucoup trop appuyée, propre à tout bon documentaire télé qui se respecte, pour entendre le propos du film qui est assez intéressant et très porteur. Il nous invite à regarder vers l'avenir droit dans les yeux, sans nier la réalité du changement climatique, et à imaginer des solutions qui ne soient pas basées sur le tout technologique ni sur le pétrole pour régler nos problèmes. Car, et là je cite les propos du film, répondre à la nature par la technologie nous exposera à un combat bien inégal, un combat sans doute vain, car on n'arrête pas un océan. Et ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on n'est pas dans un format classique de documentaire avec des experts qui parlent face caméra. Les propos, ils sont fondés sur quand même des témoignages de 43 experts de toutes disciplines, mais ils sont narrés par un comédien de la Comédie française, et les seules images qu'on voit à l'écran, ce sont des vues de paysages de France, de Etretat aux Alpes, en passant par Paris, Chartres, la Camargue ou encore l'Ariège. Et pour donner à voir le futur donc, de ces paysages impactés par un changement de climat, le film utilise la technique du compositing. C'est des séquences en fait, qui ont été tournées ailleurs, par exemple en Californie, en Floride ou en Nouvelle-Zélande, où les conditions climatiques pourraient ressembler à celles que connaîtrait la France en 2100. Et ces paysages, ils sont un peu fondus en fait, sur les paysages français. Donc c'est des effets spéciaux qui sont conçus avec des images réelles et qui sont fabriqués par des équipes issu du cinéma sans aucun recours à l'intelligence artificielle, et ça fait plaisir. Et c'est d'ailleurs des images qui sont vraiment assez belles à voir. On voit Paris sans voiture, avec des potagers géants partout sur les Champs-Élysées qui sont vraiment redevenus juste des champs. On voit la vallée de Chamonix qui est immergée suite à la fonte des glaciers. On voit la Grande Motte transformée en mangrove, et on apprend que les racines des palétuviers protégeraient le littoral camarguais de l'érosion. Bref, le film parvient, et c'est quand même une prouesse par les temps qui court, à rendre le futur désirable. On a presque hâte de voir ça, de voir ce que deviendront nos paysages demain. Donc voilà, le film propose une vision très positive, bien sûr, mais c'est assumé, affiché. Plutôt que d'avoir peur, plutôt que de redouter le pire, le récit du film propose d'imaginer l'avenir et de ne pas fantasmer un monde dévasté, déserté, de ne pas penser à la fin du monde, mais plutôt d'imaginer le nouveau. Alors on regrette juste qu'aucun territoire ni département français d'outre-mer ne soit montré, et ce d'autant qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu dans le journal de RFI tout à l'heure, a eu lieu au Sénat une séance publique lors de laquelle est discutée une proposition de loi qui vise à lever dans les territoires d'outre-mer l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. C'est le sénateur de la Guyane, Georges Patient, et plusieurs de ses collègues élus d'outre-mer qui veulent relancer les forages pétroliers, arguant que les bénéfices de cette exploitation permettraient le développement des territoires d'outre-mer. Voilà, donc ça c'est un projet qui va à l'encontre de tout ce que raconte le documentaire. Heureusement, il y a peu de chances que ce projet de loi soit accepté. La ministre de l'écologie, elle a déjà exprimé sa vive opposition au texte. Voilà, en tout cas, ça serait peut-être mieux de projeter le documentaire La France de demain à la place lors de cette séance publique au Sénat.
Midi et des poussières.
Et il est très exactement midi moins 10 que dans le studio de Radio Bartas, parce que Victor vient d'arriver. Alors j'essaie juste d'allumer son casque. Je vais augmenter, voilà, là normalement ça marche. Est-ce que tu entends Victor dans tes oreilles ?
Dans les oreilles, non.
Dans les oreilles, non ? Comment ça se fait ? Attends. Ah oui, voilà, là tu entends. Là c'est bon, tu m'entends normalement ?
Non.
C'est le direct
Bon, non, mais c'est pas grave.
T'entends pas ?
Enfin, si on m'entend parler.
Oui, on t'entend parler, bon, mais attends, j'essaie quand même de régler le problème. Pourquoi est-ce que t'entends pas ?
C'est pas très grave.
On va essayer de régler ça pendant la musique. Donc, Victor, toi justement, tu es venu aujourd'hui avec de la musique d'outre-mer.
Ben oui, oui, oui. Transition toute faite.
Voilà, c'est ça, c'était pas prévu.
avec un album, on pourrait dire patrimonial de la Réunion, qui date des années 80, qui date de 82. Le seul album de ce groupe qui s'appelle Carousel et qui s'appelle La vie est un mystère. Et donc j'ai décidé d'amener ce disque. Sans raison aucune spécialement, simplement que j'ai écouté beaucoup l'album et surtout le dernier morceau qui me parle beaucoup. Et en fait, globalement, la musique réunionnaise me parle beaucoup depuis que j'ai rencontré Léa, donc ma copine qui est réunionnaise et qui m'en a beaucoup parlé aussi. Et notamment cet album, La Carousel, pour elle, c'est vraiment un album d'enfance, quoi, de musique qu'elle écoutait dans la voiture avec ses parents. Et
c'est un album qui date de quand ?
De 82. Et celui-ci, il a été réédité. Il a été réédité en 2023 là par ce label qui s'appelle Creole Art, qui est un label qui reproduit des disques anciens, qui les fait revivre en fait, et puis qui s'intéresse essentiellement au patrimoine musical de la Réunion depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Et donc voilà, donc c'est le dernier morceau de cet album qui fait une espèce de je trouve que c'est assez symbolique et assez représentatif de la musique réunionnaise, qui est donc tout le temps dans une ambivalence entre l'aspect festif et vraiment enjoué de la vie, et le côté hyper très mélancolique aussi de ce qui a été transformé, perdu, puis récupéré par le, on pourrait dire, le peuple de la Réunion, qui est un mélange immense, quoi. Et en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On considère vraiment que la Réunion, c'est un endroit dans lequel on va en vacances comme ça, mais souvent on prend pas la dimension de la richesse qui a été et qui fait, parce que cet album, il est hyper connu à La Réunion, mais on le connaît pas du tout ici. Et globalement, la musique réunionnaise, on en parle très peu. Et c'est vraiment particulier. Et cet album, ce morceau-là, ce dernier morceau, est une espèce de progression dans la manière dont la musique s'est transformée, la musique, on va dire, traditionnelle de la Réunion s'est transformée, en partant du maloya, qui s'est transformé avec des instruments beaucoup plus
électrifiés,
modernes, modernisés, on pourrait dire. Et puis, il y a une espèce de progression comme ça entre la musique cérémonielle qui augmente, qui devient un peu psychédélique, et puis qui retombe dans cette espèce de refrain lancinant il y a la traduction en fait des paroles qui est en fait une espèce de discussion avec la musique maloya elle-même qui dit qu'on la danse, on retombe, on la danse de nouveau, et en fait on continue à faire ça jusqu'à ce que la vie nous emmène ailleurs, quoi. Enfin, il y a plein de manières de l'interpréter, et c'est souvent de toute façon hyper hyper poétique et très très imagé, le créole. Et du coup,
on va l'écouter.
On va essayer de l'écouter. Donc c'est un morceau qui dure à peu près 6 minutes, qui est un peu long, mais qui est vraiment...
C'est quoi le titre ?
Alors il s'appelle Ote Maloya, tout simplement.
Ote Maloya, ouais. Ok. Et bah je lance.
Ote Maloya, son dallon, mon dallon l'a bon comparé. Demande tantine qu'il est son dallon, mon dallon l'a bon comparé. Oh, tes cabarets, oh, qui fait mal à moi. Oh, tes cabarets, oh, qui fait mal à moi. M'a tombé l'épée, m'a dansé où. M'a tourné, viré, m'a mazinaté.
Oh,
C'était donc Ote Maloya sur Radio Bartas, la sélection de Victor de Midi moins Disque. Magnifique morceau. Et il y a plein de genres même qui ressortent. Ça fait un peu blues. Il y a un peu. Enfin, c'est très beau. Ouais.
Ouais, très riche. Cet album est un peu ce qu'on pourrait appeler la fusion, réunion, reste du monde, quoi. Enfin, en tout cas, vraiment le rythme réunionnais typique avec les instruments qu'on entend bien, notamment le cayambe, ce qu'on entend qui secoue comme ça, qui fait un peu le bruit de fond, le bruit de la mer de fond comme ça, qui reste et qui après s'enrichit de guitare électrique, de saxophone, de clavier, moi j'aime bien la progression de ce morceau parce qu'elle donc ça, il y a vraiment cette idée d'enrichissement comme ça. De plus en plus d'instruments, de plus en plus de possibles, de références, d'inspirations qui viennent et puis qui finalement sont là. Mais ce qui reste vraiment, c'est l'aspect un peu
l'esprit
oui, mélancolique, ambivalent entre le plaisir de chanter ça et aussi là d'où ça vient. Il faut savoir, ça a été interdit pendant longtemps, le Maloya. Enfin, ça, il y a eu un autre genre musical, la Réunion, qui est aussi venu de l'île Maurice, qui s'appelle le Sega, qui était une espèce de façon de représenter la musique comme ça de l'océan Indien. En tout cas de cette partie de l'océan Indien, tout en évitant toute inspiration un peu plus, on pourrait dire, spirituelle, pas religieuse, mais plutôt spirituelle. Et là, ce groupe-là, il reprend vraiment les origines et il les modernise, il s'en amuse. Et puis... Enfin, moi, je trouve ça hyper particulier comme genre musical, et ça, vraiment, moi, ça m'intéresse vraiment d'explorer encore plus tout ça, quoi. Enfin, c'est hyper riche, en fait.
Ouais.
Pour dire que ça vient d'une île comme ça, d'une espèce de tout petit morceau de monde. Enfin, c'est hyper hyper intéressant ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer d'ailleurs. Hein, donc,
voilà. Et ce qui est bien, c'est que parfois, je trouve, quand il y a trop de fusion entre les genres musicaux, ça fait un peu une espèce de masse de musique qui peut être presque homogène. Parfois, on n'entend pas... Enfin, je ne sais pas comment exprimer, mais là, c'est très doux et on continue quand même d'entendre chaque instrument, d'entendre les percussions, d'entendre vraiment le chant en créole très distinctement. Donc certes, c'est enrichi par d'autres genres et la modernisation des instruments, mais on reste en effet quand même dans quelque chose de très proche des origines, de l'esprit de ce qu'est le Maloya. Et
ouais.
C'est très beau. Ouais.
Oui, il y a de toute façon une envie de parler de la Réunion, de parler la Réunion aussi, et c'est ça qui reste, quoi. Et comme un des morceaux aussi que j'aime beaucoup, qui est plus connu, qui de Alain Peters, qui s'appelle Reste la Maloya.
Tu l'avais passé une fois à midi moins 10 à la pompe, je suis
sûr. Oui, bah je le, enfin il passe assez souvent. C'est pareil, c'est aussi un disque
emblématique,
oui, mais qui est malheureusement pas assez connu, je pense, parce que en effet c'est il y a vraiment l'envie de parler de la Réunion en réunionnais, quoi. Enfin, et moi c'est ce que j'aime bien aussi, et c'est ce que me permet aussi Léa qui m'explique qu'en fait, enfin,
Elle parle le créole.
On peut s'en emparer. Oui. Mmh. Ouais. Et on peut s'en emparer, on peut en discuter. Et c'est l'esprit réunion, ça. C'est de comprendre et de d'inclure, en fait, les n'importe qui, quoi, de n'importe quelle provenance. Et ça, moi, ça me parle vachement, quoi.
La Réunion est une grande réunion.
Oui.
Eh ben, merci beaucoup, Victor, pour cette très belle découverte. Et donc, je mettrai la référence du morceau sur la page Midi des Poussières sur le site de Bartas. Et voilà, on te voit demain à la pompe pour midi moins 10, oui, cette semaine.
Voilà. Oui, on sera là. Et donc demain, midi, 11h50, 14h. Et puis mardi aussi, mardi le soir avec Salomé qui organise son événement.
Un atelier de fabrication carte postale.
Carte postale d'amour et de haine. Voilà.
Pour la Saint-Valentin qui approche à grands pas, au secours.
Voilà.
On en reparlera, je vous en reparlerai mardi dans Midi et des Poussières. Merci beaucoup Victor et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Restez bien à l'écoute de Radio Bartas. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un prochain épisode. Salut.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi
et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.